L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Tant que l'Angleterre et la France furent les pionniers de l'industrie, au sein des nations arriérées dans le développement technique, et tant qu'elles purent vendre à leurs voisins leur laine, leur cotonnade et leur soie, leur fer et leurs machines, ainsi que toute une série d'objets de luxe à des prix qui leur permettaient de s'enrichir aux dépens de leur clientèle, le travailleur pouvait être maintenu dans l'espoir que lui aussi serait appelé à s'approprier une part de plus en plus large du butin. Mais ces conditions disparaissent. Les nations arriérées il y a 30 ans sont devenues à leur tour de grands producteurs de cotonnades, de laine, de soie, de machines et d'objets de luxe. Dans certaines branches de l'industrie, elles ont pris les devants, et sans parler du commerce lointain où elles combattent leurs sœurs aînées, elles viennent déjà leur faire concurrence sur leur propre marché. En peu d'années, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les États-Unis, la Russie et le Japon sont devenus des pays de grande industrie. Le Mexique, les Indes, voire même la Serbie, emboîtent le pas, et que sera-ce quand le Chinois commencera à imiter le Japonais en fabriquant aussi pour le marché universel ? Il en résulte que les crises industrielles dont la fréquence et la durée vont en augmentant sont passées dans maintes industries à l'état chronique. De même, la guerre pour les marchés en Orient et en Afrique est depuis plusieurs années à l'ordre du jour. Voilà 25 années déjà que l'épée de la guerre européenne est suspendue sur les États européens. Et si cette guerre n'a pas encore éclaté, c'est surtout peut-être parce que la grosse finance trouve avantageux que les États s'endettent toujours de plus en plus. Mais le jour où la haute banque trouvera son compte à ce que la guerre éclate, les troupeaux humains seront lancés contre d'autres troupeaux et s'entretueront pour arranger les affaires des maîtres financiers de l'univers. Tout s'enchaîne, tout se tient dans le système économique actuel, et tout concourt à rendre inévitable la chute du système industriel et marchand sous lequel nous vivons. Sa durée n'est plus qu'une question de temps, et l'on peut chiffrer déjà par année et non plus par siècle. Une affaire de temps et d'énergie d'attaque de notre part. Les paresseux ne font pas l'histoire, ils la subissent. C'est pourquoi des minorités si puissantes se constituent au sein de toutes les nations civilisées et demandent à haut cri le retour de la communauté de toutes les richesses accumulées par le travail des générations précédentes. La communalisation du sol, des mines, des usines, des maisons habitées et des moyens de transport est déjà le mot d'ordre de ces fractions imposantes. Et la répression, cette arme favorite des riches et des puissants, ne peut plus rien pour arrêter la marche triomphale des esprits révoltés. Et si des millions de travailleurs ne se mettent pas encore en branle pour arracher de vive force le sol et l'usine aux accapareurs, soyez sûrs que ce n'est pas faute d'en avoir envie. Ils attendent seulement pour le faire des événements propices, un moment comme celui qui se présenta en 1848, où ils pourront se lancer dans la démolition du régime actuel, avec l'espoir d'être soutenus par un mouvement international. Ce moment ne peut plus tarder de venir, car depuis que l'international fut écrasé par les gouvernements en 1872, surtout depuis lors, elle a fait des progrès immenses, dont ses plus ardents partisans souvent ne réalisent pas l'importance. Elle est constituée de faits, dans les idées, dans les sentiments, dans l'établissement de rapports continuels. Il est vrai que la ploutocratie française, anglaise, italienne, allemande, sont autant de rivales. À tout instant, elles peuvent même amener les peuples à se ruer les uns contre les autres. Pourtant, soyez sûrs que le jour où la révolution communale et sociale se fera en France, la France retrouvera les vieilles sympathies chez les peuples du monde, y compris les peuples allemands, italiens et anglais. Et lorsque l'Allemagne, qui, entre parenthèses, est plus proche d'une révolution qu'on ne le pense, arborera le drapeau, malheureusement jacobin, de cette révolution avec toute l'ardeur de la jeunesse et de la période ascendante qu'elle traverse en ce moment, elle trouvera de l'autre côté du Rhin toutes les sympathies et tout l'appui d'un peuple qui aime les révolutionnaires audacieux et hait l'arrogance de la ploutocratie. Diverses causes ont retardé jusqu'à présent l'éclosion de cette révolution inévitable. L'incertitude des rapports internationaux y est certainement pour quelque chose. Mais il y a, ce me semble, une autre cause, plus profonde, sur laquelle je voudrais attirer toute votre attention. Il se produit, de nombreux indices nous le font croire, chez les socialistes même, une transformation profonde dans les idées, semblable à celle que j'ai esquissée en début de cette conférence en parlant des sciences en général. Et l'incertitude des socialistes concernant l'organisation de la société qu'ils désirent paralyse jusqu'à un certain point leur énergie. À ses débuts, dans les années 40, le socialisme s'était présenté comme communisme, comme république unie et indivisible, comme dictature et jacobinisme gouvernemental, appliqué dans le domaine économique. Tel était l'idéal de l'époque. Religieux ou libre penseur, le socialiste d'alors était prêt à se soumettre à n'importe quel gouvernement fort, voire même à l'Empire, pourvu que ce gouvernement refît les rapports économiques à l'avantage du travailleur. Une profonde révolution s'est accomplie depuis, surtout chez les peuples latins et en Angleterre. Le communisme gouvernemental, comme le communisme théocratique, répugne aux travailleurs, et cette répugnance fit surgir dans l'international une nouvelle conception ou doctrine, le collectivisme. Cette doctrine, à ses débuts, signifiait possession collective des instruments de travail, sans y comprendre le nécessaire pour vivre, et le droit de chaque groupement d'accepter, pour ses membres, tel mode de rétribution qu'il lui plairait, communiste ou individuel. Cependant, peu à peu, ce système se transforme en une espèce de compromis entre le communisme et la rétribution individuelle du salariat. Aujourd'hui, le collectiviste veut que tout ce qui sert à la production devienne propriété commune, mais que chacun soit néanmoins rétribué individuellement en bons de travail, selon le nombre d'heures qu'il aura donné à la production. Ces bons serviraient à acheter dans les magasins sociaux toutes les marchandises au prix de revient qui serait aussi estimé en heures de travail. Mais si vous analysez bien cette idée, vous conviendrez que son essence, ainsi que la résume un de nos amis, se réduit à ceci. Communisme partiel dans la possession des instruments de travail et d'éducation, concurrence entre les individus et les groupes pour le pain, le logement, le vêtement, individualisme pour les œuvres de la pensée et de l'art, et assistance sociale pour les enfants, les malades et les personnes âgées. En un mot, la lutte pour les moyens d'existence mitigée par la charité. Toujours la maxime chrétienne, blessée pour guérir ensuite. Et toujours la porte ouverte à l'Inquisition pour savoir si vous êtes l'homme qu'il faut laisser lutter ou bien l'homme que Monsieur l'État doit secourir. L'idée, vous le savez, est vieille. Elle date de Robert Owen. Proudhon la préconisa en 1848. Aujourd'hui, on en fait du socialisme scientifique. Il faut dire cependant que ce système semble avoir peu de prise sur l'esprit des masses. On dirait qu'elles en pressentent les inconvénients pour ne pas dire l'impossibilité. D'abord, la durée de temps donnée à un travail quelconque ne donne pas la mesure de l'utilité sociale du travail accompli. Et les théories de la valeur que l'on a voulu baser depuis Adam Smith jusqu'à Marx seulement sur le coût de la production évalué en travail n'ont pu résoudre le problème de la valeur. Dès qu'il y a échange, la valeur d'un objet devient une quantité complexe qui dépend surtout du degré de satisfaction qu'elle apporte aux besoins, non pas de l'individu, comme le disaient autrefois certains économistes, mais de la société entière prise dans son ensemble. La valeur est un fait social. Résultat d'un échange, elle a un double aspect, le côté peine et le côté satisfaction, l'un et l'autre conçus dans leur aspect social et non individuel. D'autre part, quand on analyse les maux du régime économique actuel, on s'aperçoit, et le travailleur le sait très bien, que leur essence est dans la nécessité forcée pour le travailleur de vendre sa force de travail. N'ayant pas de quoi vivre pendant 15 jours à venir, placé par l'État dans l'impossibilité d'utiliser ses forces sans les vendre à quelqu'un, le travailleur se vend à celui qui promet de lui donner du travail. Il renonce aux bénéfices que son travail pourrait lui apporter, il abandonne au patron la part de lion des produits qu'il fera, il abdique sa liberté même, il renonce au droit de faire valoir son opinion sur l'utilité de ce qu'il va produire et sur la manière de le faire. L'accumulation du capital résulte ainsi non de sa faculté d'absorber la plus-value, mais de la nécessité dans laquelle le travailleur est placé de vendre sa force de travail, celui qui la vend étant sûr d'avance de ne pas recevoir tout ce que cette force produit, d'être lésé dans ses intérêts, de devenir l'inférieur de l'acheteur. Sans cela, le capitaliste n'aurait jamais cherché à l'acheter. Ce qui fait que pour changer ce système, il faut l'attaquer dans son essence, dans sa cause, la vente et l'achat, non dans ses effets, le capitalisme. Les travailleurs en ont bien une vague intuition et on les entend dire de plus en plus souvent qu'il n'y aura rien de fait si la révolution sociale ne commence pas par la distribution des produits, si elle ne garantit à tous ce qui est nécessaire pour vivre, c'est-à-dire le logis, la nourriture, le vêtement. Et l'on sait que cela est tout à fait possible avec les moyens puissants de production dont nous disposons. Resté salarié, le travailleur resterait esclave de celui à qui il serait obligé de vendre sa force, que cet acheteur soit un particulier ou l'État. Dans l'esprit populaire, dans cette somme de milliers d'opinions qui traverseront les cerveaux humains, on sent aussi que si l'État devait se substituer au patron dans son rôle d'acheteur et de surveillant de la force du travail, ce serait encore une tyrannie odieuse. L'homme du peuple ne raisonne pas sur des abstractions, il pense en termes concrets, et c'est pourquoi il sent que l'abstraction État revêtirait pour lui la forme de nombreux fonctionnaires, pris parmi ses camarades d'usine ou d'atelier, et il sait à quoi s'en tenir sur leurs vertus. Excellents camarades aujourd'hui, ils deviennent demain des gérants insupportables, et ils cherchent la constitution sociale qui élimine les maux actuels sans en créer de nouveaux. C'est pourquoi le collectivisme n'a jamais passionné les masses, qui reviennent toujours au communisme, mais à un communisme de plus en plus dépouillé de la théocratie et de l'autoritarisme jacobin des années 40, au communisme libre, anarchiste. Je dirais plus. En reportant continuellement ma pensée sur ce que nous avons vu pendant ce quart de siècle dans le mouvement social européen, je ne peux m'empêcher de croire que le socialisme moderne est forcément amené à faire un pas en avant vers le communisme libertaire. Et que, tant que ce pas ne sera pas fait, l'incertitude dans l'esprit populaire que je viens de signaler paralysera les efforts de la propagande socialiste. Le socialisme me semble amené, par la force même des choses, à accepter que la garantie matérielle de l'existence à tous les membres de la communauté doit être le premier acte de la révolution sociale. Mais il est aussi amené à faire encore un pas. Il est forcé de reconnaître que cette garantie doit se faire non par l'État, mais complètement en dehors de l'État et sans son intervention.